Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Formule très solennelle de saint Jean, on sent bien que ce signe, ce miracle de Jésus à Cana ouvre l'évangile et évidemment ce n'est pas par hasard que Jésus le met, que Jean le situe en tête de son évangile. Saint Jean, qui travaille son évangile comme le dernier livre, le livre ultime dans l'Écriture, il découvre la signification ultime de ce que Jésus veut faire. Et ce que Jésus veut faire, c'est épouser notre humanité, rien de moins. Mystère insensé de l'amour de Dieu. Ce signe, qu'est-ce que c'est ce signe? C'est le signe du vin d'abord. Le vin qui, dans toute l'Écriture, réjouit le cœur de l'homme. Le vin, c'est la surabondance. Le vin, ça n'est pas nécessaire au sens strict pour vivre, mais le vin, c'est le signe de l'abondance qui donne la joie. Le vin des noces, il y a quelque chose qui annonce des noces, évidemment pas seulement les noces de Cana, mais les noces que Dieu veut réaliser avec le peuple d'Israël d'abord et avec toute l'humanité ensuite, celles les noces qui étaient annoncées par le prophète Isaïe déjà, nous avons lu dans la première lecture, Dieu qui parle à son peuple, on te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera, tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, on ne te dira plus jamais délaissé, on te dira ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. Très tôt, les prophètes avaient découvert ce signe que Dieu voulait donner à l'humanité, que Dieu voulait épouser l'humanité comme un époux épouse une jeune fille. C'est quelque chose qu'on ne retrouve dans aucune autre religion. Que l'homme cherche Dieu, que l'homme même peut-être cherche à aimer Dieu, bon, mais que Dieu aime l'homme et qu'il aime à la folie au point de vouloir l'épouser, ça c'est quelque chose qui est absolument inouï et totalement unique dans l'histoire des religions. Notre planète dans le système solaire, notre soleil dans la galaxie, qui compte à peu près peut-être une centaine de milliards d'autres soleils, notre galaxie dans l'univers qui compte peut-être une centaine de milliards de galaxies comme la nôtre. C'est dire l'inouï que Dieu veuille s'occuper de moi. Non seulement qu'il veuille s'occuper de moi, moi personnellement, singulièrement, mais qu'il m'aime comme un époux aime une jeune fille qu'il épouse. Comme un homme choisit une épouse, il veut m'épouser. M'épouser, c'est-à-dire il veut faire un avec moi pour porter avec moi le fruit de vie. Il me choisit, moi, toi, chacun d'entre nous. Il nous choisit chacun d'une façon singulière, d'un choix, d'un amour unique, parce qu'il veut réaliser avec chacun d'entre nous, comme avec nous tous, en un seul corps, cette extraordinaire fécondité d'amour qui porte la vie, qui transmet la vie. Ce signe des noces, ce signe du vin, c'est l'eau de la purification, parce que les jars utilisés pour ce miracle sont les jars de la purification des Juifs. L'eau de la purification qui va devenir le vin des noces. Dimanche dernier, nous parlions du baptême de Jésus et le baptême de Jean annonçait un autre baptême, le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le baptême de Jean était un signe qui annonçait le vrai baptême, ce plongeon de chacun d'entre nous dans l'amour, dans l'Esprit Saint, dans l'amour infini de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'eau des purifications, c'est-à-dire de la même manière qu'au baptême de Jean, la conversion du cœur qui annonce déjà ce don infini de Dieu pour chacun d'entre nous, ce don de l'amour. Il m'aime à la folie. Et dans ce signe des noces, il manifesta sa gloire. Le miracle visible renvoie à un miracle invisible. Ce miracle invisible, c'est déjà la résurrection de Jésus. La puissance de vie plus forte que la mort, la puissance de l'amour plus forte que la haine, la puissance de la lumière plus puissante que les ténèbres. Et ce miracle dans l'évangile de Saint Jean, qui est extraordinairement travaillé, se réalise le septième jour, c'est-à-dire il achève la création, la nouvelle création. Au commencement était le Verbe, ce sont les premiers mots de l'évangile de Saint Jean, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, la parole de Dieu, la parole d'amour. Par lui, tout a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est la création première, et ici, la création dernière, la nouvelle création. De la même manière que le soir de la résurrection, Jésus soufflera sur ses disciples comme Dieu avait soufflé sur l'univers pour lui communiquer la vie. Jésus souffle sur les disciples pour leur communiquer la nouvelle vie. La première vie a été mise en échec par le péché. La nouvelle vie est éternelle et ne peut pas mourir. La nouvelle vie traversera la mort avec lui, par lui, en lui. Est-ce que nous prenons conscience de cet amour fou de Dieu pour nous? Est-ce que nous prenons conscience que tout ce qui me concerne, concerne Dieu comme un époux est concerné par son épouse? Le signe, l'union conjugale, l'union charnelle des époux et la joie de l'union charnelle des époux sera icône, dira Saint Jean-Paul II, icône de cette union que Dieu veut réaliser avec chacun d'entre nous, que le Christ réalise avec son Église. Le Christ est engagé dans son Église comme l'époux avec l'épouse. Ceci est mon corps livré pour vous. Le don du corps. Mystère insondable, mystère qui nous dépasse infiniment d'un amour que nous ne pouvons pas dire, mais que nous croyons, mystère de foi, c'est la foi. Qui dans le monde, qui, si Jésus ne nous l'avait pas dit, pourrait croire un amour si incroyable, pourrait imaginer un amour si fou. Nous sommes aimés infiniment par celui qui est tout-puissant. Nous sommes à la fois ses enfants, mais nous sommes maintenant aussi pour lui, et ça va plus loin, comme des épouses. Marie le croit déjà. Elle n'a pas les mots pour le dire, bien entendu. Mais Marie le croit parce qu'elle croit que son fils est fils de Dieu. Parce qu'elle croit à la messianité de Jésus. Elle croit que c'est le Messie envoyé par Dieu pour non seulement guérir l'humanité, mais pour la sauver, pour lui donner la vie. Et Marie dit à Jésus le besoin des hommes. Elle dit là le besoin des époux de la noce. Ils n'ont pas de vin. Elle anticipe de cette manière ce que l'Église fera pour présenter à Dieu le besoin des hommes. Marie, figure de l'Église, présente à Jésus l'attente, le manque. De la même manière qu'aujourd'hui, l'Église, et nous le ferons tout à l'heure, comme chaque dimanche en particulier, dans la prière universelle, l'Église présente à Dieu le besoin des hommes. Elle le fait d'une façon absolument pauvre, absolument abandonnée. Elle donne un conseil aux serviteurs, mais pas à Jésus. Elle ne dit pas à Jésus, « Jésus, ils n'ont pas de vin, tu pourrais peut-être faire... » Elle ne dit rien de tout ça. Elle dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et elle se retire. Et ce faisant, elle anticipe, elle provoque la manifestation de la gloire de Jésus. Saint Jean, c'est étonnant, Saint Jean, par rapport au synoptique, ne dit rien des tentations de Jésus au désert. Au désert, Satan s'approche de Jésus, et la première des tentations, nous la connaissons, Jésus avait faim au terme de ses 40 jours de jeûne. Satan se présente, mais puisque tu as faim, tu n'as qu'à transformer ces cailloux en pain, puisque tu es Dieu. Et Jésus, bien entendu, refuse. Satan, lui, donne un conseil à Jésus. Il donne un conseil à Jésus pour provoquer. Marie, c'est l'exact inverse de l'attitude de Satan. Elle ne donne aucun conseil et elle provoque la manifestation de la gloire de Jésus, non pas pour lui, mais pour manifester l'amour de Dieu. Elle cherche, elle, Marie, à adhérer de toute son âme, de tout son être, à l'amour et à l'œuvre de son Fils. La réponse de Jésus est étonnante. Alors évidemment, en français, ça ne donne rien. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Quand on entend ça, on ne peut pas très bien comprendre ce que Jésus dit. Et même on interprète quelquefois complètement à l'envers en disant ben, « Jésus renvoie un peu promener sa mère ». C'est évidemment tout l'inverse. « Femme, que me veux-tu ? » Quand on entend cette phrase et quand on la creuse, quand on l'écoute en profondeur, on sent que Jésus est bouleversé au plus intime de lui-même. Quand on sait la rareté, la précision des dialogues qui nous sont donnés entre Marie et Jésus, on peut se dire qu'aucun mot n'est au hasard. Marie, avec sa toute petite voix, toute simple, toute pauvre, mais avec une autorité formidable, ils n'ont pas de vin. Silence. Femme, que me veux-tu ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Et si Jésus l'appelle femme, c'est parce qu'il fait référence au rôle de la femme, le rôle unique et historique de la femme dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'humanité. Ça renvoie à la première faute, et ça renvoie évidemment à la croix, quand Jésus lui dira « Femme, voici ton fils ». Parce que Jésus reconnaît là la femme par rapport à l'homme qu'il est, l'épouse par rapport à l'époux qu'il est, l'œuvre commune qu'ils vont donner ensemble, en quelque sorte. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, c'est un langage tout à fait précis. L'heure de Jésus, c'est l'heure de son sacrifice ultime, l'heure de son offrande. Il est venu pour cela, il est venu pour donner sa vie, il est venu pour manifester l'amour du Père jusqu'au don de sa propre vie. Et Jésus prend ce petit recul pour dire, qu'y a-t-il, quelle est cette relation, quelle est la question que tu me poses pour que je sois bouleversé si profondément? Est-ce que tu me demandes déjà aujourd'hui de manifester cette gloire? Jésus parle à sa mère, mais il parle à son Père par l'Esprit Saint en lui. Jésus a horreur des miracles pour les esbouffes. Il a horreur des miracles pour faire parler. Il déteste tout ce qui fait de l'effet. Et quand la multiplication des pains, par exemple, les gens veulent le faire roi, il fiche le camp dans la montagne pour prier. Il fuit toute espèce de manifestation bruyante. Il refuse absolument toute espèce de miracle qui ferait jaser, qui ferait parler, mais qui fait pchit. Et Jésus, comme s'il réfléchissait tout haut, est-ce que je dois faire ce miracle? Est-ce que je dois aujourd'hui... Jésus n'est pas un espèce de Superman qui accomplit un plan, qui déroule un plan. Alors je vais aux noces de Cana, je sais que je vais multiplier le vin, que je vais transformer l'eau en vin. Là, je vais faire tel miracle, là, je vais faire tel miracle. Tout est planifié d'avance. Mais non. Jésus vient aux noces, invité avec sa mère, et il amène aussi ses disciples, tout neuf. Est-ce que je vais aujourd'hui manifester ma gloire de cette manière? Elle a touché au plus intime de Jésus. Jésus est bouleversé, comme s'il était déjà dans son agonie. Mon heure est venue, dira-t-il à ce moment-là. Aujourd'hui, elle n'est pas encore venue. Est-ce que je dois manifester déjà aujourd'hui ce qui sera réalisé demain? Je retiens deux questions essentielles pour nous aujourd'hui. La première question, qu'en est-il de ma foi? Est-ce que j'ai une foi abandonnée et pauvre, ou est-ce que je cherche à donner des conseils au Seigneur? Quand je prie pour moi, quand je prie pour ma famille, quand je prie pour le monde, j'ai tellement tendance à dire, Seigneur, si j'étais à ta place, moi je ferais ça ou ça. J'ai tellement la tentation de donner conseil à Dieu, parce que je sais, comme si je savais mieux que lui ce qui était bien pour l'humanité ou pour moi. La prière de Marie est extraordinaire parce qu'elle est le modèle absolu de la prière de demande. C'est une prière de demande, mais elle ne demande rien. C'est parfaitement légitime de dire au Seigneur, « Seigneur, mon enfant est malade, viens, fais ce que tu dois faire. » Je n'ai pas de conseil à lui donner. C'est étonnant que, à la fois des saints, évidemment, d'une façon très, très, avec autorité, disent à un enfant, « Lève-toi » alors qu'il est mort, ou que... Il réalise des miracles par la puissance de Dieu. Et justement, c'est Dieu qui agit en eux parce qu'ils sont eux-mêmes totalement et absolument transparents à la puissance de Dieu. Et c'est précisément ce qui manque à ma foi, c'est d'être vraiment transparente. Qui d'entre nous oserait dire qu'il est totalement désintéressé? Qui oserait dire qu'il est totalement désintéressé dans sa prière? Travaillons pour que notre prière devienne plus gratuite. Une prière d'amour qui répond à l'amour de Dieu. Alors Dieu pourra déployer toute sa mesure, déployer toute sa puissance. Qu'en est-il de ma foi réellement? Et puis la deuxième question, est-ce que j'obéis au Seigneur? Je regarde les serviteurs de ces noces. Et je suis bouleversé par l'obéissance des serviteurs. Remplissez d'eau les jarres. Moi, j'aurais été des serviteurs, j'aurais dit au Seigneur, mais non, enfin, 600 litres d'eau, mais tu n'y es pas. Enfin, c'est du vin qu'il demande, c'est pas de l'eau. Et ça, c'est du travail pour remplir les jarres quand même, 600 litres. Il n'y a pas d'eau courante. Il faut l'épuiser. et aller servir le maître du repas. Là, je crois, moi, je me serais mis en colère en disant, mais Seigneur, enfin, c'est complètement idiot ce que tu demandes. Et c'est en servant qu'ils découvrent que ce qu'ils servent est réellement du vin. S'ils ont fait ce que Jésus demandait, c'est parce que Marie leur a donné ce conseil, en forme de commandement d'ailleurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie a une autorité extraordinaire. Encore une fois, avec son air tellement doux, tellement humble, tellement simple, mais quand elle dit, on peut pas faire autrement, quand on l'écoute vraiment. Je me sens parfois tellement démuni dans les paroles que je donne, parce que ce sont des paroles humaines. Comment est-ce que mes paroles peuvent porter une efficacité, une fécondité réelle? Je me sens tellement démuni devant des malades ou devant des mourants. Comment est-ce que je pourrais... Je n'ai que des pauvres œuvres humaines. Je me sens tellement démuni devant les problèmes de la société, du monde. Comment est-ce que je peux venir à bout des... J'ai envie de baisser les bras en disant, mais de toute manière, c'est foutu. Quand je vois la pauvreté de l'Église, comment est-ce que l'Église pourrait aujourd'hui être fidèle à sa mission pour annoncer Jésus dans un monde qui est tellement païen, qui est tellement fermé, qui est tellement indifférent, qui est tellement difficile? Et sans cesse, Jésus me répète, l'impossible, laisse-le-moi, ça m'appartient et ça me regarde. Toi, fais le possible, mais fais-le, s'il te plaît. Je ne te demande pas de changer l'eau en vin, c'est moi qui vais le faire. Mais toi, je te demande de puiser pour remplir les jarres et d'aller servir le maître du repas. Je ne te demande pas de faire des miracles impossibles dans le monde. Je te demande de faire ce que je te dis. Je te demande de prêcher, même si tu trouves que c'est idiot. Je te demande d'aller soigner les malades, même si ça ne sert à rien apparemment. Je te demande de t'occuper des pauvres, même si tu en auras au-dessus de ce que tu peux faire. Moi, je ferai cet impossible et j'accomplirai mon heure et ma gloire sera manifestée et on pourra croire à l'amour de mon Père. Heureusement que Marie est là. Marie est tellement, tellement autre chose qu'une statue un peu sucrée dans le coin de l'église qu'on va fleurir quand même parce que c'est le mois de mai. Je ne peux pas vivre ma vie de chrétien sans Marie qui est là derrière moi, à côté de moi, et qui me dit « Vas-y François, vas-y, fais-le. Fais-le puisqu'il te le dit. Fais confiance. » Alors je fais et je m'aperçois qu'effectivement, des choses qui sont totalement anodines, comme de l'eau de purification, deviennent des choses que je n'attendais absolument pas. Parce que j'ai laissé faire le Seigneur. Parce que ma foi était suffisamment transparente. Mais si ma foi n'est pas transparente et que je lève les bras au ciel en disant « Mais de toute manière, qu'est-ce qu'on y peut ?» Alors rien ne se fait. Et le mal continue à gagner. Demandons au Seigneur cette confiance et écoutons la Vierge Marie. C'est elle qui sait. Amen.